Merci beaucoup, frère. Bonjour, tout le monde. Alors, ne vous inquiétez pas, cette conférence n'est pas que pour les jeunes, même si je me réjouis beaucoup s'il y a des jeunes dans la salle aussi. Moi, je veux vous parler cet après-midi d'un grand paradoxe. Peut-être le paradoxe le plus grand de la vie humaine, de l'existence humaine. Et ce paradoxe-là, il peut être particulièrement difficile à comprendre pour un chrétien qui a une relation à ce Dieu qui nous dit dans Jérémie « Je connais les pensées que je forme à votre sujet, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » C'est ce Dieu avec qui nous avons une relation. Et pourtant, nous éprouvons bien souvent, d'une manière ou d'une autre, la souffrance, l'absence de bonheur, le manque, l'aridité. Le paradoxe que nous voulons alors creuser cet après-midi est le paradoxe de l'eau vive qui coule là où on l'attendrait le moins, dans le désert. Qui de vous a déjà été dans un désert ? Qui de vous a déjà marché dans un désert? Plusieurs jours? Alors moi, le maximum, c'était 12 jours, sans douche. J'ai survécu et c'était merveilleux. Alors le désert, c'est un lieu très spécial. Il est beau, oui, mais il est surtout un lieu de sécheresse, de manque, d'aridité, d'absence de vie, d'absence d'eau, d'absence de nourriture, de souffrance et peut-être même de mort. C'est un lieu caractérisé par le manque. Et c'est un lieu inconfortable. Un lieu où on n'aime pas vraiment séjourner trop longtemps. Et pourtant, dans la Bible, le désert est un lieu où plein de choses importantes se passent. En apparence, c'est un lieu mort, un lieu désagréable, voire dangereux. Mais en réalité, c'est un lieu où des choses essentielles, des choses vraiment importantes et marquantes se passent. Le désert, dans la Bible, est un lieu décisif, un lieu où les choses se clarifient et se décident. Le long combat des 40 ans du peuple d'Israël, qui lutte pour sa liberté, se passe dans le désert. Et cette lutte pour la liberté passe par une longue lutte, avec Dieu, ce long chemin de maturation, de suivre ses commandements au lieu de s'en détourner, de faire confiance à Dieu au lieu de se croire autosuffisant et de l'aimer avec un cœur indivisé au lieu d'un esprit vacillant. C'est un lieu où le peuple de Dieu réalise qu'il ne peut pas faire grande chose pour pourvoir à ses besoins par ses propres moyens. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture. Comment se fabriquer cela soi-même au désert? Et bien sûr, il râle. C'est normal, c'est compréhensible. Il râle. Mais il ne râle pas parce qu'il manque un peu de luxe. Il râle parce que, apparemment, et par leurs propres moyens, il leur manque le nécessaire pour vivre. Et c'est cela que nous pouvons ressentir dans notre propre vie aussi quand nous faisons l'expérience du manque sans connaître le remède. On se sent impuissant, on se sent peut-être même victime des circonstances, peut-être désespéré d'un manque qui persiste dans notre vie. Et ça peut bien être au niveau matériel, ça peut être au niveau émotionnel, dans les relations que nous avons, dans mes propres émotions envers moi-même. Ça peut être à niveau psychologique et à niveau spirituel. Et cet après-midi, je vous propose de découvrir que le désert, ce lieu aride, n'est pas seulement un lieu aride justement et de sécheresse, mais que c'est un lieu où se cache la vie. Et pas seulement la survie, mais la vie en abondance. Dans le désert spirituel et humain, nos désirs inassouvis se montrent avec toute leur force. Un désir, par exemple, d'une vie en plénitude que je n'ai pas. Un désir de sens dans ma vie familiale ou professionnelle. un désir d'un mariage plus facile, plus aimant, un désir de ne plus souffrir la solitude, un désir d'amitié profonde, d'union avec quelqu'un, un désir d'être aimé, un désir de paix, un désir peut-être de ne plus être enchaîné par tel ou tel vice, peut-être un désir d'un corps différent ou d'un caractère différent, ou tout simplement un sentiment un peu flou que ça ne va pas très bien dans ma vie. Je ne suis pas heureuse. C'est d'ailleurs particulièrement vrai pour les jeunes, pour les ados et les jeunes adultes. Ce sentiment flou, quand on regarde les études sociologiques sur la génération Z, donc c'est ceux qui sont jeunes maintenant, il y a une émotion dominante, mais de loin dominante, qui marque cette génération partout en Occident, partout. Et c'est l'émotion de l'anxiété. Donc, que le manque se montre clairement ou sous forme d'un malaise un peu flou, il est une réalité de la vie humaine. Nous avons un tel désir de bonheur, un tel désir de paix, un tel désir de sens, d'amour, de beauté, de vérité, de joie. Et ce désir est indéracinable. Et souvent, il est peu comblé. Il est peu comblé, ou pas totalement comblé, ou pas durablement comblé, n'est-ce pas? Et voilà le paradoxe alors. Le désert, l'aridité, le désir inassouvi est le lieu privilégié où la vie peut surgir à nouveau, où l'eau peut jaillir. Il nous est promis qu'il jaillit là. Où nos forces sont refaites, où une rencontre avec Dieu nous attend et où une nouvelle fécondité est donnée. Dieu dit par Isaïe dans l'Ancien Testament, et c'est le titre de ce petit livre, « En plein désert, il comblera, en plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. » Voilà le paradoxe, voilà le paradoxe. Une rencontre plus profonde avec Dieu, un amour plus grand et plus durable pour lui, une fécondité augmentée dans notre vie doit passer mystérieusement par l'aridité, l'obscurité, la sécheresse et le manque. Bon, tout cela a l'air bien inconfortable. Vous êtes probablement venu à ce pèlerinage pour vous ressourcer, pour refaire vos forces, et je vous parle de l'aridité et du manque. Raté. Bon, ne vous inquiétez pas parce que si nous comprenons pourquoi il faut passer par là, pourquoi Dieu permet que nous ressentions le manque si souvent, si douloureusement dans notre vie, nous allons découvrir que ce n'est pas pour en souffrir plus que Dieu nous mène au désert ou permet le désert, mais pour devenir plus capable d'aimer, plus capable de se laisser aimer, plus libre intérieurement. Tout en effet de désir, il n'y a pas d'exception. Parfois, on a bien rangé les désirs quelque part et on a mis le couvercle, on les a bien fermés dans un endroit de notre vie qu'on ne touche pas et que surtout Dieu ne peut pas toucher non plus. Mais même si c'est votre cas, vous êtes fait de désir. Tout homme est fait de désir. Tout homme expérimente le manque. Tous. C'est la condition de l'homme. Et c'est vrai pour tous les âges, pour tous les états de vie, pour les riches et les pauvres, pour ceux qui apparemment réussissent leur vie et pour ceux qui ont du mal. Mais puisqu'il est très souvent inassouvi ce désir, et donc plutôt une source de souffrance que de bonheur, nous le considérons plutôt comme un problème à éliminer de notre vie, un problème qu'il faut s'en libérer de ce problème, un obstacle à une vie paisible, calme, sans conflit, sans souffrance, un obstacle peut-être même à notre vie spirituelle et à notre chemin de sainteté. Et si c'était tout le contraire? Si c'était tout le contraire? si le désir inassouvi était moteur et source de la vraie vie, la vie en abondance, la liberté intérieure, la joie. Il y a donc une question importante qui s'impose. Pourquoi se mettre en route? Pourquoi grandir? Pourquoi avancer dans la vie? Pourquoi se convertir plus si plus aucun désir nous y pousse? Si par peur de ressentir le manque, nous nous sommes coupés de notre désir profond. Le désir de quelque chose de toujours plus grand et donc par conséquent jamais totalement satisfait est le signe de notre humanité. Notre humanité qu'un Dieu infiniment bon a créée. Notre humanité qui, oui, s'est détournée de Dieu, qui s'est repliée sur elle-même. Mais c'est cette même humanité que Jésus-Christ est venu sauver. Elle est le lieu où tout ce qui est essentiel dans notre vie, y compris dans notre vie spirituelle, se passe. Si nous évitons de nous confronter au manque dans notre vie, nous tuons nécessairement aussi le désir, ce moteur dans notre vie, et nous passons à côté de la rencontre la plus belle et la plus intime avec Dieu. Je veux très brièvement vous inviter à être courageux pour 2 minutes. Et puis ensuite, je suis sûre que vous êtes courageux. Mais sur ce point-là, peut-être, on n'a pas l'habitude d'être courageux. Donc je vous invite à être courageux maintenant. Prenons un moment. Si vous voulez, fermer les yeux brièvement. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Mais si vous voulez, fermer les yeux. Et sentez où est le désir le plus inassouvi dans votre vie maintenant. Peut-être c'est depuis longtemps que vous avez perdu l'espérance d'une vie en abondance. Peut-être c'est une expérience récente de votre vie. Ou encore peut-être c'est un manque moins violent, mais constant, ruinant, qui dit quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu n'es pas vraiment heureuse. N'ayez pas peur de vous confronter à ce manque, parce que là, il y a Dieu qui dit en plein désert, en plein manque, on pourrait dire, « Je comblerai tes désirs et te rendrai vigueur. » Donc, si vous voulez rester dans cet état d'intériorité, un moment, et demandez tout simplement à Jésus une question vraiment simple. Et vous pouvez demander après moi à haute voix. C'est une phrase. Jésus, demandez à haute voix. Jésus, montre-moi le manque le plus douloureux dans ma vie. Et puis prenez un moment pour laisser surgir ce manque à la lumière de votre conscience et à la lumière de Dieu. Et maintenant, restez là, ne fuyez pas, restez à cet endroit-là. Peut-être c'est douloureux, mais c'est le lieu d'une rencontre plus intime avec Dieu. Et invitez Dieu à entrer dans cet endroit-là, dans votre vie. Et nous allons encore poser une question à Jésus. Donc, demandez après moi à haute voix, Jésus, comment regardes-tu ce manque ? Comment me regardes-tu avec ce manque ? N'oubliez pas ce que le Seigneur peut-être vient vous montrer. Et si vous le refaire, ce tout petit exercice, vous pouvez évidemment le faire tout seul à la maison. Mais donc, vous voyez bien qu'on est fait de désir. Si on se permet de le regarder, on est fait de désir. Et donc, nous ressentons aussi nécessairement le manque. Car notre désir le plus profond est un désir d'infini et un désir infini. Pour moi, c'est en fait la plus belle preuve de Dieu. Ce désir d'infini est pour moi une preuve absolument magnifique de l'existence de Dieu. Au lieu d'être un problème parce qu'il nous... Voilà, le manque, c'est la contrepartie du désir, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait le regarder comme vraiment quelque chose d'absolument incroyable dans notre vie. Parce que comment cela se fait-il que nous sommes capables de ce désir, de cet immense désir? N'est-ce pas quelque chose de très étrange? Nous avons une capacité innée de désirer l'infini, alors qu'il est impossible que nous en ayons pris goût par l'expérience de notre vie ici, puisque tout ce qui existe ici autour de nous est fini et non pas infini. Comment est-ce que nous pouvons avoir le goût infini, le désir d'infini? La seule réponse logique et satisfaisante à ce fait étrange de désirer l'infini alors que tout ce qui nous entoure est de caractère fini et que nous connaissions déjà mystérieusement cet état d'assouvissement total que nous avons en fait l'expérience déjà, cette expérience de l'assouvissement total, mais pas dans cette vie ici-bas. Que nous venons de là, que nous sommes faits pour cela et que nous avons un immense désir de le retrouver. Et c'est rien d'autre que l'éternité joyeuse avec Dieu. Voilà pourquoi notre désir est au plus profond, le moteur le plus puissant de notre vie, y compris et surtout de notre vie spirituelle. Donc notre désir est fait pour nous tirer vers le haut, vers l'infini, vers l'éternité, de nous rappeler cette grande vocation qui nous est donnée d'une vie éternelle avec Dieu, dans un état totalement assouvi. Donc le risque n'est jamais que nous en avons trop de désirs, mais que nous en avons trop peu. Mais quelque chose, évidemment, s'est passé mal en chemin. Parce que souvent, le désir nous tire vers quelque chose que nous savons qui n'est pas bon pour nous. Nous nous sommes aliénés de votre propre désir, de la source d'eau vive. Nous le trouvons plus facile de chercher partout, sauf à la vraie source. Nous nous faisons avoir tout le temps par l'illusion que nous irons mieux si nous nous fabriquons notre bonheur nous-mêmes et que, en tout cas, mettre notre confiance en Dieu pour cette question existentielle de notre vie est une mauvaise idée. Cette méfiance de la capacité et la volonté de Dieu de combler vraiment notre désir profond et le désir profond de toute existence humaine n'est rien d'autre que le péché originel. Cet acte de méfiance de Dieu se reproduit encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Le péché originel a désorienté notre désir. Le problème n'est pas le désir. Le problème, c'est que le désir a été désorienté. Nous pouvons très bien imaginer la question du serpent, du tentateur, comme ceci. Est-ce que Dieu veut vraiment assouvir tes désirs? Est-ce qu'il ne veut pas plutôt te laisser dessécher dans une existence aride? Est-ce que tu ne seras pas sur une voie plus sûre si tu cherchais toi-même cet assouvissement par tes propres moyens? Si tu cherchais toi-même comment être heureux? Vois toutes ces belles choses ici, toutes ces belles choses. Tu peux en prendre tant que tu veux. C'est quand même plus intelligent que d'attendre à ce que Dieu le fasse, car probablement, il ne va pas le faire. Il n'est pas digne de ta confiance. Nous sommes tellement marqués par cette mentalité du péché originel, tellement marqués. Et la conséquence et que nous ne savons plus quoi faire avec nos désirs profonds. Nous pensons que nous n'avons que deux options. Soit satisfaire nos désirs avec les moyens du monde qui sont à ma portée, acheter des choses dont je n'ai pas besoin, mais pour ne plus sentir le manque, faire des voyages beaucoup plus, toujours plus exotiques pour ne plus sentir le manque, avoir une vie sexuelle désordonnée pour ne plus sentir le manque, manger pour ne plus sentir le manque, etc. Et pourtant, si nous creusions ces désirs, vous n'y trouverez pas un seul désir mauvais. Pas un seul. Ce sera toujours, dans la profondeur, un désir d'amour, de paix, de joie, de vie, de sens, etc. Mais nous répondons à ce désir, pour parler en images, avec un repas au McDo, un repas rapide de fast-food au McDo, au lieu d'attendre un repas fin et délicieux dans un restaurant étoilé, mais qui prend plus de temps pour être préparé. Et la deuxième option, c'est de fuir notre désir, de l'éliminer de notre vie, de se couper de notre désir. Penser que nous irons mieux si nous fonctionnons que par devoir, par raison, en nous coupant de notre cœur. Voici ce que nous dit l'Église à ce propos, c'est dans le catéchisme numéro 2566, si vous voulez relire. Je cite, « Même après avoir perdu la ressemblance avec Dieu par son péché, l'homme reste à l'image de son Créateur. Il garde le désir, il garde le désir de celui qui l'appelle à l'existence. Toutes les religions témoignent de cette quête existentielle de l'homme. Nous gardons le désir. Il n'a pas été détruit par le péché. Tant que nous nous arrêtons à la frustration face à notre désir non comblé, et tant que le manque est une menace pour nous, pour notre bonheur, pour ce comment nous imaginons la réussite de notre vie, nous ne pourrons pas vraiment grandir en liberté intérieure. Nous ne pourrons pas vraiment devenir féconds dans notre vie. Et nous ne pourrons jamais faire la paix avec cette sainte agitation de notre cœur, cette heureuse anxiété de notre être qui désire toujours plus. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, dit saint Augustin. Et j'ajouterai, heureusement, il en est ainsi. Mais notre désir, évidemment, a besoin de guérison parce qu'il est blessé. Car si nous ne laissons pas guérir notre désir, nous vivons d'une manière ou d'une autre, selon la logique du péché originel. La guérison du désir que Jésus nous propose est une transformation de notre esprit, de notre manière de penser, de notre cœur et de tout notre être. Et il y a tant de passages dans la Bible, tant de passages magnifiques dans la Bible où Jésus nous demande et nous aide aussi à clarifier nos désirs. Il nous pose très souvent avec des mots différents la question « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» Autrement dit, « Quel est ton désir ? » « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ? Pourquoi es-tu venu ? De quoi as-tu soif ?» Que veux-tu ? Souvent, nous n'avons peut-être pas une réponse très claire à ces questions. Je sens ma faim, je sens ma soif, mais je ne sais pas vraiment de quoi devrait consister la nourriture ou la boisson que je désire. Pourquoi Jésus nous demande-t-il si souvent de mettre des mots sur notre faim, sur notre soif, de creuser notre cœur pour pouvoir identifier ce qui nous manque ? Parce qu'il sait que quand nous nous rendons compte de l'immensité de notre désir, de l'insatiabilité de notre faim, de l'impossibilité de la satisfaire vraiment avec des moyens du monde, nous commençons enfin à nous mettre à la recherche de la vraie réponse, à aller à la vraie source. Nous réalisons enfin que tous nos petits bonheurs de substitution ne seront jamais assez pour combler notre désir profond. Et nous commençons à nous reconnaître comme des créatures de désir qui dépendent de leur créateur, qui sont incapables de se fabriquer leur vie comblée, leur bonheur eux-mêmes. Et la grande grâce de cette réalisation est que nous commençons à nous désarmer devant Dieu. Nous nous désarmons de nos défenses habituelles, de l'image que nous avons de nous-mêmes ou que nous voulons avoir de nous-mêmes, de l'image de comment devrait être notre vie, de l'illusion que nous pouvons fabriquer notre bonheur nous-mêmes. La grâce de ce moment-là est que nous commençons enfin de nous mettre debout, ou peut-être dans un premier temps face contre terre, devant Dieu, tel que nous sommes vraiment, sans masque. Et c'est là que Dieu nous attend pour nous rencontrer. C'est là où notre perspective sur notre manque ou nos manques et nos désirs peut se transformer radicalement. Et cette vision transformée de notre vie ne considère plus le manque comme un problème qu'il faut éliminer à tout prix ou duquel il faut tout simplement se distraire tout le temps. Le manque perd son caractère anxiogène. Et il devient un lieu d'une nouvelle rencontre plus intime avec le Seigneur, d'une nouvelle liberté intérieure et donc aussi d'une nouvelle fécondité, d'une nouvelle capacité à dire oui à ce à quoi le Seigneur nous appelle individuellement. Donc tout le défi est là, ne plus avoir peur du manque dans notre vie et le voir plutôt comme un moteur puissant vers les biens véritables, vers l'éternité, vers cette vie avec Dieu. C'est de là seulement, de cette bonne orientation de notre désir, que notre vie ici-bas va aussi se mettre plus en ordre petit à petit. Donc, entamer un chemin spirituel à travers nos désirs, un chemin de guérison de notre désir, c'est un chemin de liberté. Et nous pouvons commencer tout simplement. C'est pas très compliqué. Nous pouvons commencer tout simplement. Le premier pas, et de rendre grâce pour tous ces instants dans notre vie où nous expérimentons déjà un certain accomplissement, un certain assouvissement et un certain bonheur sur terre. Quelle joie de vivre une amitié profonde où nous pouvons expérimenter concrètement quelque chose du regard et de la bonté de Dieu à travers l'ami. Quel extraordinaire avant-goût du ciel est un beau mariage. De même, quel bel accomplissement constitue un travail passionnant et plein de sens. Que c'est beau une vocation religieuse féconde. Donc, cultiver cette gratitude, même pour des toutes petites choses où nous sentons que, alors, c'est ça l'accomplissement de mon désir, c'est ça l'assouvissement de mon désir. Cultiver cette gratitude pour tous ces assouvissements provisoires, c'est d'apprendre à les accueillir comme autant d'avant-goûts du ciel. Et cela fera grandir en nous le désir d'un accomplissement définitif qui ne sera pas étranger à ce que nous aurons déjà vécu et cultivé ici sur terre. Donc d'une certaine manière, nous nous préparons au ciel en cultivant cette gratitude. Nous nous préparons au ciel. Prendre conscience du caractère provisoire et toujours incomplet d'un assouvissement à la mesure du monde n'enlève rien à sa beauté ni à son sens. Au contraire, cela nous permet de vivre déjà quelque chose de l'éternité ici-bas, d'anticiper la joie et la beauté auxquelles nous sommes appelés en plénitude. Quel cadeau de vivre des moments où nous nous sentons entièrement comblés, jouissons pleinement de ces instants. Ils sont tellement précieux, humainement et spirituellement. Ils nous édifient, ils nous permettent d'expérimenter la légèreté d'une existence portée par la joie. Et l'éternité aura quelque chose de semblable à ces moments-là, mais en infiniment plus intense et sans jamais cesser. Mais bon, le manque est quand même l'expérience beaucoup plus la plus fréquente. Mais je pense que cultiver ces moments-là, cultiver ce cœur de gratitude, en fait, pour l'assouvissement, en sachant que c'est provisoire, c'est la meilleure préparation au ciel. Deuxième pas, et ce n'est pas que pour plus tard, ce n'est pas que pour la vie éternelle, ça va transformer notre vie ici et maintenant. Ça va avoir des conséquences très réelles et concrètes sur comment nous vivons maintenant. Et le deuxième pas tout simple, c'est d'arrêter de penser que la tension entre désir et manque serait un problème dans notre vie. Commençons de la voir comme le moteur de notre vie spirituelle et de notre vie tout court. Il est essentiel que nous vivions cet état de tension, notre condition humaine, de manière consciente et avec intentionnalité. Ne pas fuir la tension de l'existence humaine et de vivre consciemment est autre chose qu'une vie tendue. Je ne vous invite pas à une vie tendue. C'est autre chose. Il ne s'agit pas de vivre dans un état de tension psychologique. Encore moins de rechercher la tension pour elle-même, mais de donner à cette tension existentielle que nous ne pouvons pas éviter un sens, c'est-à-dire une signification et une direction. Le but est de ne pas fermer cette partie intime et essentielle de notre être à Dieu, de ne pas en verrouiller l'accès en portant des masques et en cultivant une attitude superficielle de bien-être. Et il y a un acte intérieur qui permet souvent et mystérieusement à l'Esprit-Saint d'agir avec puissance sur un point concret. Et cet acte intérieur s'appelle le consentement, consentir. Consentir n'est pas une démission intérieure, ce n'est pas une démission intérieure, ce n'est pas subir et encore moins désespérer. Au contraire, consentir consiste à accepter profondément la réalité et la remettre à la puissance de l'action de Dieu. Consentir n'est pas une forme de passivité, c'est un acte volontaire et courageux, totalement d'ailleurs compatible avec un travail sur mes attitudes, mes blocages, peut-être des habitudes qui entravent ma liberté. C'est totalement compatible. Donc, consentir au manque, contrepartie du désir, nous permet de nous mettre en route sur le chemin du désir. Ce dynamisme profondément bon, cette étincelle nécessaire pour allumer le feu intérieur, sans lequel nous ne pouvons faire ni petite ni grande chose, dit Sainte Catherine de Sienne. Le psaume 37 exprime pour moi magnifiquement, car très simplement, l'attitude fondamentale qui pour moi est la clé d'une vie authentique à la liberté intérieure et à la joie. Et ce psaume dit tout simplement ceci: « Seigneur, tout mon désir est devant toi. » Et cette phrase contient deux mouvements qui ensemble nous permettent d'avancer sur le chemin du désir. Le premier mouvement est celui de justement consentir à notre condition humaine, telle que Dieu nous a créés, avec tout notre désir d'absolu qui est si difficile à combler. Le deuxième mouvement est celui de lui tendre activement ce qui est en nous, de s'exposer à la lumière de Dieu sans rien lui cacher. Exposer ses désirs à Dieu présuppose de les connaître. Apprendre à connaître ses désirs et à découvrir le manque dans la vie comme un lieu de fécondité plutôt qu'un problème procure une joie durable d'une toute nouvelle qualité. L'Église, encore une fois dans le catéchisme, nous invite à mettre tous nos désirs devant Dieu. Et il y a une magnifique, longue partie sur la prière dans le catéchisme. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à à la lire. Et puisque la prière est, est une rencontre personnelle avec Dieu, je vais lire un tout petit bout de ce passage en remplaçant pour maintenant le mot prière avec rencontre avec Dieu. Donc c'est le numéro 2560. La merveille de la rencontre avec Dieu se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. Le désir est propre à Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a créés à son image. Donc Dieu qui nous désire. Et je continue. La rencontre avec Dieu, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Si Jésus nous demande donc de clarifier nos désirs, c'est pour nous préparer à cette rencontre avec lui. Il sait très bien que si nous restons dans un sentiment flou et vague de ne pas être assouvi et d'en souffrir, mais sans creuser cette question, nous ne pouvons tout simplement pas avancer. Notre cœur sera rempli de souffrance, de doute, peut-être même de rancune à cause de cet inassouvissement, et il sera alors fermé à la rencontre à la source de l'eau vive. Et paradoxalement, puisque nous parlons de paradoxe cet après-midi, plus nous restons attachés à notre propre imagination de comment serait une vie heureuse et réussie, moins nous serons capables de la vivre. Eh bien, le désert est un lieu dans lequel Dieu nous guide pour le retrouver plus profondément. C'est un lieu où il veut nous purifier de toutes les fausses certitudes et il veut nous montrer qu'il veille, qu'il est là, qu'il prend soin de nous réellement. C'est le lieu où Dieu nous propose une immense croissance intérieure qui marquera toute notre vie. Le désert dans la Bible est un lieu de refuge, de rencontre, de renouvellement. David rencontre Dieu dans le désert, Moïse évidemment, fait l'expérience que Dieu prend soin concrètement dans le désert de son peuple. Osée décrit le désert comme un lieu d'alliance et d'amour renouvelé. Le désert, le manque que nous expérimentons, n'est pas le néant, mais c'est l'eau vive. C'est un lieu d'une nouvelle alliance, de rencontres plus authentiques, de croissance, de maturation, de purification, de nouvelles perspectives d'avenir, de clarification, de décision et tellement plus. C'est un lieu où Dieu finalement peut séduire notre cœur. Une des plus belles articulations de cette réalité se trouve dans le livre d'Osée, chapitre 2. Je cite « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles, je ferai du val d'Achor une porte d'espérance. » C'est le thème de la fécondité et de l'espérance. « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur du désert et du manque. Oui, le désert est aride, mais il fleurit. Moi, je l'ai vu, j'ai vu le désert fleurir. C'est incroyable. On ne sait vraiment pas d'où viennent les fleurs, mais il fleurit. Oui, nous devons faire radicalement confiance que Dieu prendra soin de nous. Mais nous allons voir des merveilles d'une toute nouvelle qualité, je vous promets. Oui, cela peut sembler long, mais aucune seconde de ce temps d'attente et de consentement est gaspillée. Dieu utilise chaque moment du désert pour nous façonner, pour nous modeler, modeler notre cœur, modeler notre esprit et toute notre personne. Et maintenant, disons, Seigneur, tout mon désir, Tout mon manque, toute mon inquiétude est devant toi. Viens me transformer. Donne-moi, pour encore revenir à Isaïe, que j'ai cité au début, donne-moi la grâce d'expérimenter qu'en plein désert, tu combleras mes désirs et tu me rendras vigueur. Donne-moi la grâce d'expérimenter que te rencontrer dans le désert, dans le manque de mon existence, cela veut dire que tu me transformes dans un jardin bien irrigué et une source où les eaux ne manquent jamais. Merci beaucoup.